Note à l'auditeur. Cet épisode comporte un vocabulaire et du contenu réservé aux adultes et pourrait ne pas convenir à certains auditeurs sensibles.
L'activité bourdonnait à l'intérieur du bloc opératoire d'un hôpital suédois. Mais le docteur Kyle Grinemo n'entendait rien. Il était concentré sur ce qui se trouvait devant lui.
C'était un peu le début d'une nouvelle ère en ce qui concerne la médecine translationnelle et la régénération des organes.
C'était le matin du 9 juillet 2011. L'équipe présente dans cette pièce allait changer l'histoire. Pour la première fois, une trachée fabriquée en laboratoire allait être implantée dans un être humain. Le docteur Paolo Macchiarini menait l'opération.
Quelques jours plus tôt, Paolo m'a demandé d'être présent dans le bloc opératoire pour observer l'intervention. Et en fait, je me disais, c'est comme si une rockstar me demandait de venir le rejoindre backstage.
Le docteur Grinemo n'a pas hésité.
C'était une évidence à ce moment-là.
Il était donc présent en salle d'opération et il observait le patient des pieds jusqu'au cou pendant que le docteur Macchiarini travaillait. Et ce qu'il voyait, c'était la pression que subissait le chirurgien.
On pouvait vraiment le voir. Il était extrêmement stressé.
Le docteur Macchiarini a commencé par retirer la trachée cancéreuse du patient. Une fois la trachée retirée, il n'y avait plus de retour en arrière. La trachée synthétique avait été apportée dans le bloc opératoire.
J'ai donc ouvert la boîte. C'était une sensation très bizarre, en fait. Vous ouvrez une boîte noire et à l'intérieur, il y a cette trachée synthétique magique.
Elle était rosâtre, en forme de Y, et faite d'un plastique épais.
Il l'a découpé à la bonne taille et il a fait des injections de facteurs de croissance. Paolo l'a transféré dans la plaie opératoire et a commencé à suturer.
Macchiarini a commencé à coudre la trachée synthétique à sa place, mais avec difficulté.
Puis s'est passé quelque chose qui n'aurait pas dû arriver. L'artère pulmonaire a éclaté à nouveau et il y a eu un saignement vraiment important.
Si on ne faisait rien, le patient se viderait de son sang et mourrait en quelques minutes seulement.
Et à ce moment-là, Paolo, je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé, mais il était très frustré. Et il a dit « Continuez, je pars ». Il a quitté la salle d'opération alors que le patient saignait à mort.
Le docteur Grinemo était surpris. Il n'avait jamais vu un chirurgien quitter un patient en crise de cette manière-là. Ça semblait inconscient. Il ne s'attendait pas à ça de la part d'un chirurgien mondialement connu.
Paolo avait trop de pression sur les épaules pour réussir. Et je pense qu'à l'implantation de cette prothèse-là, il s'est dit « C'est bon, je l'ai fait ». Et puis soudainement, le patient a commencé à saigner beaucoup. J'imagine qu'il a dû se sentir vraiment frustré et se dire que c'était injuste et penser que le patient allait mourir.
Macchiarini était sorti de la salle d'opération. Le patient devait donc être stabilisé par un chirurgien assistant.
Et il a arrangé les choses.
Quelques minutes plus tard, le docteur Macchiarini est revenu.
Lorsqu'il est revenu dans la pièce, c'était comme si rien ne s'était passé. Personne n'a rien dit.
C'était fait. La nouvelle trachée était en place. Le patient était vivant. L'opération était un succès. Ça avait duré près de 9 heures et tout le monde était épuisé.
Ils m'ont demandé de refermer le patient parce que tout le monde était trop fatigué. Il ne leur restait plus vraiment d'énergie.
Le docteur Grinemo n'en revenait pas. Il n'était plus seulement dans les coulisses avec une rockstar. Il terminait le concert.
Je me suis senti vraiment honoré d'avoir l'opportunité de refermer le tout premier patient qui avait reçu une trachée synthétique.
C'était comme une bénédiction. Cette opération-là signifiait que d'autres transplantations biosynthétiques chez l'humain pourraient suivre. Reins, cœur et poumons. Et le docteur Macchiarini était le premier à le faire. Réputé, charmant, à la fine pointe de la science médicale. Le docteur Grinemo était fier d'avoir participé à cette chirurgie révolutionnaire. Mais des années plus tard, il va considérer cet instant-là avec un sentiment très différent.
C'est un peu ironique, mais en y repensant maintenant, si le patient était mort sur la table d'opération, ça aurait peut-être été une meilleure chose, parce que si le patient était mort à ce moment-là, tout se serait arrêté.
Pour Wondery, je suis Anne-Sophie Roy et vous écoutez Docteur la mort, l'homme miracle. Vous écoutez l'épisode 1, l'amour fou. À l'origine, cette histoire a été couverte, écrite et présentée par Laura Beale, qui a vécu et travaillé pendant plus de 20 ans à Dallas en tant que journaliste médicale. C'est moi qui prendrai sa place le temps de la version québécoise de la série. Laura Beale est devenue journaliste scientifique parce qu'elle était et est toujours fascinée par le fonctionnement du corps humain. Et pour cause. Si vous deviez partir de zéro, il serait difficile de construire une machine aussi extraordinaire que le système immunitaire ou que n'importe quel organe du corps humain. Et pour en comprendre une grande partie, il faut parler à des gens qui ont étudié les façons de réparer cette machine lorsqu'elle a un problème. En général, la science évolue par étapes. Des petits pas qui se suivent pour nous faire avancer. Mais de temps en temps, quelqu'un propose quelque chose de si grand, de si provocateur, qu'il est difficile de ne pas s'y intéresser. Benita Alexander venait de retourner à son bureau, un café Starbucks à la main, lorsqu'elle a remarqué un courriel intriguant. Hey Benita, j'ai lu cet article-là très intéressant sur un nouveau domaine médical en fin de semaine. Dis-moi ce que t'en penses. C'était à la fin de l'été 2012. Benita travaillait depuis 14 ans comme productrice pour NBC au Rockefeller Center. Elle a cliqué sur le lien.
It was sort of this unbelievable, incredible sci-fi.
C'était un genre de truc incroyable, la science-fiction, un peu comme Frankenstein. Il parlait de la possibilité de créer de nouveaux organes en laboratoire.
Elle buvait son cappuccino en lisant. L'article parlait d'un développement incroyable dans la science médicale et se concentrait sur un chirurgien italien en particulier.
Dr. Paolo Macchiarini.
Le docteur Paolo Macchiarini, un chirurgien et scientifique italien qui était à l'avant-garde dans ce domaine-là. On l'appelait le super chirurgien.
Le docteur Macchiarini semblait sur le point de faire quelque chose que personne n'avait fait avant. Fabriquer de nouvelles parties du corps en laboratoire, puis réussir à les transplanter sur les gens.
Ce gars-là voulait changer le futur de la médecine et aider l'humanité. Il voulait faire tout ce qu'il pouvait pour y arriver, ce qui signifiait franchir les limites des gens qui disaient « Non, on a besoin de plus de temps, il faut attendre. » Il semblait avoir ce petit côté rebelle en lui.
Et il avait l'air passionné par son travail.
C'est sûrement ce qui va nous aider à fabriquer des trachées. Ou comme je l'ai dit, c'est comme aller au supermarché pour acheter des organes. Le même concept peut s'appliquer aux poumons.
Benita a lu un article après l'autre. En quelques années seulement, le docteur Macchiarini avait fait d'incroyables progrès. Il avait commencé par prélever des trachées sur des cadavres, les vider de leurs cellules, puis les imprégner des cellules souches du receveur avant de les implanter. Et ça avait marché.
Quelques semaines seulement après l'opération novatrice, Claudia Castillo peut à nouveau respirer normalement.
Mais il était allé plus loin, en faisant quelque chose de si incroyable que Benita en a eu le souffle coupé. Depuis son institut en Suède, lui et ses collègues chirurgiens ont réalisé la première transplantation d'une trachée artificielle. On aurait dit de la science-fiction.
N'importe quelle partie du corps que vous avez besoin de remplacer pourrait être fabriquée en laboratoire. Incroyable, non? Si ça pouvait vraiment arriver, ça sauverait des vies.
Le travail de Benita était de trouver des histoires vraies incroyables pour Dateline. Et là, il y en avait une qui se formait dans son esprit.
C'était quelque chose qui pouvait changer le futur de la médecine.
Le docteur Macchiarini a réalisé 5 opérations et transplanté des trachées en plastique sur ses patients. Benita voulait être là pour le prochain miracle, pour le filmer. Elle a donc écrit un courriel à une collègue pour lui demander des infos sur sa prochaine opération et cliqué sur « Envoyer ». Quelques jours plus tard, elle a appris que le docteur Macchiarini avait accepté que Benita documente sa prochaine intervention. Macchiarini avait 54 ans. Il était né en Suisse et s'était formé en Italie. Il avait travaillé partout dans le monde, France, Espagne, États-Unis, avant de décrocher un poste au célèbre Institut Karolinska en Suède, siège du comité qui sélectionne les prix Nobel de physiologie ou de médecine. Pour sa prochaine opération, le docteur Macchiarini devait opérer une petite fille nommée Anna.
Elle devait être la plus jeune personne au monde à recevoir l'une de ces trachées artificielles. La façon dont il décrivait cette petite fille-là était bouleversante. Elle était à l'hôpital depuis le jour de sa naissance.
Anna Warren était née à Séoul. Son père était canadien et sa mère était coréenne. À la naissance, on a découvert que sa trachée n'était pas complètement formée. Benita pensait à sa propre fille. Elle ne pouvait pas imaginer ce que les parents devaient vivre. Benita a contacté le père d'Anna, Daryl. Elle voulait centrer son documentaire sur le combat de leur petite fille.
On leur a dit qu'on ne pouvait rien faire pour leur fille, c'était sans espoir. Ils ont même envisagé de baisser les bras. Ils en ont parlé ouvertement et honnêtement, ce que j'ai trouvé très courageux.
Mais ils n'ont pas abandonné. Au lieu de ça, un tube respiratoire a été inséré dans son œsophage, là où la nourriture passe normalement, jusqu'à ses poumons. Elle devait recevoir toute sa nourriture par une sonde dans son estomac et avait besoin d'une supervision médicale constante. Elle ne pouvait donc pas quitter l'hôpital. Les médecins ont dit aux parents d'Anna qu'aucun enfant dans sa condition ne vivait plus de 6 ans.
Et ils ont parlé des frayeurs abominables au début, dès qu'ils recevaient un appel de l'hôpital. Le tube était tombé et Anna avait failli mourir. Et puis c'est Daryl, son père, qui est allé sur Internet. Et c'est comme ça que beaucoup de gens ont trouvé le Dr Macchiarini en faisant des recherches sur Internet. Et son nom est apparu, alors il l'a contacté.
Sa maladie ou sa condition est aussi très rare. Mais elle a besoin d'une chose. Il lui faut une trachée. Et maintenant, c'est possible. Alors, si elle peut avoir une trachée, tout ira bien. Elle ira mieux.
Le docteur Macchiarini devait donner une nouvelle trachée à Anna. Il allait prendre l'avion et effectuer l'opération au Children's Hospital de l'Illinois à Peoria. Ça allait être la première opération du genre aux États-Unis. Benita voulait mettre en place le planning de production, mais elle attendait une date définitive pour l'opération d'Anna. Un jour, Benita a été réveillée par un message urgent.
Il y avait une sorte d'enquête en Italie et je me souviens qu'on m'a transféré un article écrit en italien.
Elle pouvait distinguer quelques mots dans le titre et savait que ce n'était pas bon, alors elle a rapidement copié le texte dans Google Traduction.
J'avais ce sentiment horrible. Ah non, qu'est-ce que c'est? Oh God, what
does this mean? Le docteur Macchiarini était accusé d'avoir tenté d'extorquer des patients en Italie en leur disant qu'ils pouvaient réaliser les interventions dont ils avaient besoin hors du pays. Mais il devait payer cash. Et ça coûtait des milliers d'euros.
Et je me souviens d'avoir envoyé des courriels à tout le monde et appelé les membres de l'équipe pour dire « Wow, attendez une minute, qu'est-ce qui se passe là? »
Mais quand elle a eu des nouvelles, tout semblait n'être qu'un malentendu qui avait dégénéré.
Les avocats d'Illinois qui s'occupaient de la FDA et de l'obtention de la licence médicale du Dr Macchiarini ont dit que c'était réglé. Ils ont examiné la question, tout allait bien. Je me suis dit « OK, c'est bon, tout devrait bien se passer. » Parce que sinon, pourquoi la FDA laisserait une telle chose se produire? Pourquoi ils autoriseraient cet homme-là à pratiquer une opération dangereuse sur une enfant aux États-Unis si ce n'était pas correct? Donc on s'est dit « OK, ça va. »
D'ailleurs, le docteur Macchiarini avait une explication.
Il a dit que ses patients étaient désespérément malades et que l'établissement dans lequel ils travaillaient en Italie, ben, ils n'avaient pas la capacité de prendre soin d'eux de la manière dont ils en avaient besoin. Et il essayait de les aider et que c'était juste un énorme malentendu.
Benita avait prévu de rencontrer le docteur à Boston le soir avant leur interview. Ça devait être leur première rencontre en personne. Benita et sa collègue se sont installées sur l'une des banquettes d'un bar sportif et ont commandé un café en attendant. Et elles ont attendu.
Il était en retard. Et le truc, c'est que, comme il était en retard, moi, je commençais à m'énerver. Vous savez, je peux être irritable quand je travaille. Je suis du genre, mettons-nous au travail, on va faire ce qu'on a à faire, allez. Et comme il était en retard, j'étais énervée. Mais j'étais aussi probablement énervée parce que c'était un week-end férié et que j'étais assise là, dans un bar, à boire une tasse de café. Et j'aurais préféré être assise avec une amie et boire un verre de vin.
Benita l'a texté.
Vous venez toujours?
10 minutes sont passées, puis 20, puis 30, et il n'était toujours pas là. Puis la porte s'est ouverte.
Et là, je le vois, dans mon champ de vision périphérique sur la droite.
Un homme bien habillé, avec des cheveux argentés, des yeux sombres et un grand sourire.
And
nos regards se sont croisés, puis je me suis sentie comme une écolière. J'avais des papillons dans le ventre, puis une sorte de courant électrique m'a traversée. Je crois que j'ai rougi. Je me suis dit, Benita, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Je suis journaliste depuis des années. J'ai rencontré toutes sortes de gens. Vous savez, j'ai été à la Maison-Blanche, j'ai vu des présidents, j'ai vu des célébrités. Je suis même allée chez elle. J'ai été impressionnée par des gens, oui, mais pas troublée, jamais troublée. Et soudainement, cet homme-là entre, ce chirurgien italien, ce charmant et très attirant chirurgien italien.
C'était comme si George Clooney, dans Urgence, se dirigeait vers Benita. Le docteur Macchiarini portait un jean serré, un veston ajusté, une magnifique écharpe en laine enroulée avec soin autour de son cou. Il lui a serré la main et s'est présenté. Puis, il a commandé une bière.
He's funny. He was making jokes.
Il était drôle, il faisait des blagues, il se moquait de lui-même. Et donc, c'était une dichotomie intéressante parce qu'il avait un peu cette sorte d'arrogance italienne. Et puis, il avait ce côté doux et gentil. Et on pouvait deviner qu'il se souciait de ses patients.
That he really cared about his patients.
Mais il y avait quelque chose d'autre.
He looked at me.
Il m'a regardé, nos regards se sont croisés et il a eu ce petit sourire sur son visage. Il a penché la tête et c'était très subtil. Mais c'était un petit sourire de flirt et quelque chose s'est produit immédiatement. J'avais l'impression d'être une écolière, j'étais gênée puis je comprenais pas du tout ce qui se passait. Il était vraiment charmant. Et il était... Il avait du sex appeal, il était italien, il était bien habillé. Et évidemment, les choses qu'il porte coûtent très cher. Et il est juste une de ces personnes qu'on remarque immédiatement lorsqu'elles entrent dans une pièce.
He's one of those people that when he walks into a room, you feel him, you notice him.
Je me souviens avoir plaisanté avant qu'il s'en aille. Ne soyez pas en retard, parce que l'interview était tôt le lendemain matin. Et il m'a dit, ne vous inquiétez pas.
Les inquiétudes de Benita s'estompent. Elle n'aurait pas pu trouver un sujet plus charmant pour son documentaire que ce médecin-là. Avec la première interview du docteur Macchiarini enregistrée, les choses sont allées vite. Benita et son équipe ont accompagné le médecin et sa patiente Anna Warren de la Corée du Sud à l'Illinois où l'opération devait avoir lieu.
Anna était à peu près, je dirais, à 8 rangées derrière nous, avec ses infirmiers et ses parents. Et donc, on avait un vol de 13 heures et il faisait des allers-retours pour vérifier qu'Anna allait bien.
Benita avait déjà réfléchi à la fin qu'elle voulait pour son documentaire. Ce faiseur de miracles qui offrirait une nouvelle vie à cet enfant.
Peut-être que cette petite fille pourrait sortir de l'hôpital et rentrer, courir partout, jouer comme un enfant normal avec sa grande sœur.
Lorsqu'ils ont décollé et que les choses se sont calmées, Paolo s'est assis à côté de Benita. Et même si son attention était sur Anna,
il voyait que quelque chose n'allait pas et il m'a demandé ce qui se passait.
Son instinct ne le trompait pas. Quelque chose n'allait pas dans la vie de Benita.
Alors j'ai commencé à lui en parler.
Elle n'avait pas prévu d'en parler, mais la vérité, c'est qu'elle avait presque dû renoncer à ce voyage. Son ex-mari, de qui elle était restée très proche, faisait des allers-retours à l'hôpital et son état de santé empirait rapidement.
J'ai en quelque sorte mis un pied devant l'autre en essayant de tout gérer, de tout surmonter. Mais à l'intérieur, je m'effondrais, vous savez. Malgré le divorce, j'aime mon ex-mari, c'est le père de ma fille. Et je savais que le père de ma fille allait mourir.
À ce moment-là, elle a déballé toute l'histoire de la longue maladie de son ex-mari, John. Elle a raconté son histoire au complet, par bribes, à Paolo.
Il m'écoutait très calmement, très attentivement et avec beaucoup d'attention. Et avec ce regard bienveillant sur son visage.
Elle lui a dit à quel point sa fille aimait John et les difficultés qu'elle avait pour trouver comment la soutenir.
C'est la fille à son papa. Elle a 9 ans. Son monde allait s'effondrer. Comment surmonter ça? Comment vous dites à votre fille que son père va mourir? Est-ce que vous continuez à donner de l'espoir à votre enfant ou vous êtes juste honnête? Et c'était la question que je posais à Paolo. Quand je dois lui dire, comment lui dire, quoi lui dire?
Paolo a pris une seconde pour réfléchir à ce qu'elle venait de lui dire. Puis, il a posé une main sur son genou et lui a dit d'une voix calme et assurée
that I had to tell her
que je devais lui dire que son père allait mourir d'une manière douce, que je devais la préparer pour ça, pour pas faire l'erreur que beaucoup d'adultes font en pensant qu'elle est trop jeune, qu'elle ne doit pas savoir. Qu'elle ne peut pas ne pas savoir parce que ça va la frapper deux fois plus fort et qu'elle ne pourra pas surmonter tout ça.
She's not going to be able to cope at all.
Elle savait qu'il avait raison.
En tant que médecin et chirurgien, il pouvait me donner des conseils que personne ne pouvait me donner. Il a eu affaire à de nombreux patients qui n'ont pas survécu et il a dû faire face aux familles. Il a connu des situations pleines d'émotions. Alors, je me suis dit que je pouvais lui demander des choses et lui parler de choses que je ne pouvais dire à personne d'autre, ni mes amis, ni ma famille.
Ils ont discuté pendant des heures, en s'arrêtant toutes les 15 ou 30 minutes pour que Paolo aille voir Anna.
Et l'autre chose qui m'a frappée immédiatement, c'est qu'il m'a posé beaucoup de questions sur ma fille, sur comment elle allait, comment elle réagissait. Et je me souviens de m'être dit, waouh, il l'a jamais rencontrée. Mais on dirait qu'il s'inquiète vraiment pour elle, de la même manière qu'il se préoccupe de ses patients.
Le jour de l'opération d'Anna est arrivé, un mardi nuageux à Peoria. Et Benita et son équipe de télévision n'étaient pas les seuls à s'être déplacés.
Il y avait toutes sortes d'équipes de journalistes qui couvraient l'événement. On le couvrait aussi. Une équipe de télévision coréenne le documentait étape par étape. Des agences de presse du monde entier attendaient de voir ce qui allait se passer. Cet enfant qui allait recevoir une transplantation radicale et révolutionnaire.
Benita était juste à côté, dans une salle de presse improvisée, avec des télés à écran plat et une diffusion en direct de la salle d'opération. Elle regardait l'intervention se dérouler avec les autres journalistes. Pendant près de 9 heures, ils ont observé et attendu, oscillant entre l'espoir et la peur. Puis, la porte s'est ouverte sur Paolo. Tout s'était passé comme prévu.
On s'est dit « Oh mon Dieu, ça a marché. Ça avait marché. Tout s'était bien passé. » Pas de complications, elle s'est très bien remise.
Quelques semaines après, Benita a vu une vidéo d'Anna que le docteur Macchiarini lui a envoyée. La fillette était allongée sur un lit d'hôpital, transformée. Elle n'avait plus de tube en plastique dans sa bouche. Pour la première fois, Benita la voyait sourire, d'un grand sourire jusqu'aux oreilles.
Souvenez-vous qu'Anna n'a jamais mangé. Elle n'a jamais pu goûter ni toucher quoi que ce soit avec sa langue. Et quelques jours après la chirurgie, je crois que c'est Paolo qui lui a apporté, qui lui a donné un suçon, vous savez, le bonbon. La chose préférée des enfants, non? C'est du sucré, c'est doux. Quel enfant n'aime pas les bonbons? Et c'est une très jolie vidéo parce qu'on le voit placer le bonbon devant sa bouche et elle commence à le goûter timidement. Et ce petit sourire apparaît sur son visage et elle s'illumine comme si elle disait « C'est quoi? » Et où c'était pendant toute ma vie? C'est adorable et tout le monde semble heureux. Et ensuite, elle attrape le bonbon et le rapproche d'elle et elle a l'air de se dire « C'est quoi ça? Je le veux! » Et pour moi, ça signifiait beaucoup parce que c'est l'une des joies de l'enfance, apprécier un bonbon. Et cette jolie petite fille n'avait jamais pu faire ça.
And this beautiful little toddler had never been able to do that. She had no idea what it was to taste sugar.
Elle ne savait pas ce que ça faisait de goûter du sucre. C'est comme un aveugle qui voit pour la première fois ou un sourd qui entend pour la première fois. On voyait ses yeux s'ouvrir avec émerveillement, de l'excitation et de la joie. C'était un nouveau monde pour elle. Soudainement, ce bonbon ouvrait les portes du reste de sa vie et tout ce qu'elle avait manqué auparavant. C'était un rêve. C'était la fin attendue, la fin heureuse du conte de fées.
This was the dream. This was the ending, the fairy tale ending we all wanted.
Puis, le conte de fées a pris fin. Durant les semaines qui suivaient l'intervention réussie d'Anna, les problèmes ont surgi pour Benita. Elle avait travaillé dur sur le documentaire sur l'opération d'Anna et voyagé de la Corée à l'Illinois pour le travail. Et au fond d'elle, elle gardait l'espoir que son ex-mari John réussirait miraculeusement à se rétablir. Mais au printemps, il est tombé dans le coma. Elle n'a pas eu la chance de lui dire au revoir correctement. Alors, elle a continué à travailler. Mais un jour où il tournait au Children's Hospital de l'Illinois, le docteur Macchiarini a remarqué que quelque chose pesait sur Benita. Ils ont pris un café à la cafétéria et sont allés s'asseoir à l'extérieur de l'hôpital.
Et Paolo, de manière très calme, prévenante et attentionnée, m'a juste regardé et m'a dit, « Tu dois trouver une manière de lui dire au revoir. Tu dois faire quelque chose pour lui rendre hommage, et à ta fille, et à ce que vous avez vécu tous les trois. Sinon, ça va te faire souffrir pour toujours. Et si tu penses à quoi que ce soit qui peut t'aider, je vais t'aider. »
Plus tard ce soir-là, il est rentré à l'hôtel et a réfléchi à ce qu'il lui avait dit. Mais allongée sur son lit, elle n'arrivait pas à trouver comment faire ses adieux.
Puis je me souviens m'être réveillée le lendemain matin et je me suis dit, je sais exactement quoi faire. La fleur préférée de John, c'était l'oiseau du paradis. Ce sont des fleurs magnifiques, tropicales et majestueuses, oranges et violettes et très, très éclatantes. Magnifiques. On en avait à notre mariage et il adorait ces fleurs-là. Dès qu'il m'envoyait des bouquets, il y avait toujours des oiseaux du paradis.
Alors, elle a pris son cellulaire et a appelé Paolo.
Je lui ai dit que je savais quoi faire. Je voulais aller acheter des oiseaux du paradis. Et j'en voulais trois. Une pour John, une pour moi et une autre pour ma fille. Et je voulais les amener quelque part pour lui dire adieu. Il a dit « OK, je peux t'amener quelque part en moto ». Et j'ai dit « D'accord ».
Benita a enfilé un jean, une veste et des souliers à talons, puis est descendue le rejoindre. C'était un jour de printemps parfait, avec un grand ciel bleu à perte de vue.
Il est arrivé avec sa petite veste en cuir noir, ses lunettes de soleil branchées, son jeans bleu moulant. Tu sais, vous savez, je parlais de George Clooney et là, c'était vraiment OK. Voilà monsieur le docteur sexy sur sa moto.
Paolo était inhabituellement calme. Il lui a juste dit bonjour et demandé le chemin du fleuriste. Elle a acheté trois oiseaux du paradis et est revenue vers la moto.
J'ai décidé de lancer les fleurs dans l'eau.
Alors qu'il démarrait la moto, elle pressait ses genoux autour de lui et entourait sa taille de ses bras. Ils se sont rendus à la rivière Illinois en suivant la route sinueuse qui longe ses rives.
Le moteur est bruyant, les voitures sont bruyantes autour de nous et le vent nous fouette le visage. Tout est plus grand et plus bruyant et plus vibrant et on peut tout sentir. On peut tout voir comme si on nous avait déposé en plein milieu de la rue. Et on fait en quelque sorte partie de la route. Et être assise à l'arrière d'une moto me fait sentir vraiment vivante.
Ils ont conduit près d'une demi-heure le long de la rivière jusqu'à l'endroit où Benita voulait s'arrêter.
J'ai dit, c'est là que je veux aller. On s'est arrêté dans un endroit magnifique au bord de la rivière Illinois avec un petit parc. C'était calme, il n'y avait personne. Je suis descendue de la moto avec les oiseaux du paradis et j'ai marché vers la rivière.
Paolo est resté près de la moto. Elle a marché seule jusqu'à la rivière et est restée debout avec ses fleurs.
Je suis peut-être restée 20 minutes et je disais au revoir à John à ma manière et je réfléchissais. On a été ensemble pendant 17 ans. On a été mariés 11 ans. On a cette merveilleuse fille de 9 ans. On a eu une très belle histoire ensemble. Il y avait beaucoup de souvenirs. Et je pensais à tout ça. Je pensais à tout ce que ma fille allait perdre. C'était un père formidable. Il avait tellement de choses à lui apprendre. Elle avait besoin de lui. Et je pensais à toutes ces choses-là. Et je savais que je n'arriverais jamais à prendre sa place. C'était une tâche impossible. Je dois tout faire pour cette petite fille maintenant. Comment je peux y arriver? Et j'ai calmement jeté chaque oiseau du paradis dans l'eau.
Elle a commencé à marcher vers Paolo, la tête baissée, les larmes aux yeux.
Et à environ un mètre de lui, je me suis finalement arrêtée et j'ai levé la tête et nos regards se sont croisés. Et de la même manière que la toute première fois que je l'ai vu, mais ce regard-là était très différent. Nos regards se sont croisés et on s'est compris. Il avait ce regard gentil, compatissant, attentionné dans ses yeux, cette chaleur accueillante. Et quand il a ouvert les bras pour me serrer contre lui, je suis juste tombée dans ses bras, comme si j'abandonnais la douleur pour aller vers quelque chose qui semblait chaleureux, réconfortant et plein d'espoir. Et j'en avais vraiment besoin. Je le savais à ce moment-là. Je le savais que ce n'était pas de l'amitié, c'était plus que de l'amitié. Et je craquais pour ce gars-là et ça posait problème.
Benita savait que ce n'était pas bien de sortir avec l'intervenant d'un documentaire. Mais elle pouvait le justifier. Elle pouvait sortir avec lui puisqu'elle avait fini de tout filmer. Sauf une scène. La fin. Benita voulait filmer le retour heureux d'Anna en Corée. Elle était en convalescence au Children's Hospital de l'Illinois depuis 3 mois et elle devait être capable de rentrer avant la fin de l'été. Mais en rentrant à New York, elle a reçu un autre type d'appel.
Ils m'ont dit qu'Anna n'allait pas bien, alors j'ai appelé Paolo pour lui demander ce qui se passait. On m'a téléphoné pour me dire qu'Anna ne va pas bien. Il a soupiré, puis il a dit « Oui, je comprends pas ce qui se passe, c'est terrible, ça a l'air assez grave. » J'ai dit « Comment ça, ça a l'air grave? » Et il a dit qu'elle pourrait mourir.
Puis, il n'a plus rien dit. Elle ne croyait pas ce qu'elle entendait.
Je pensais qu'elle allait bien, et il ne m'avait presque rien dit sur le sujet, à part qu'il y avait quelques complications. Et maintenant, il dit carrément qu'elle pourrait mourir. Et je me souviens avoir essayé de le questionner. Et il m'a dit « Je n'ai pas envie d'en parler. On en reparlera quand on se verra en personne. Je ne peux pas donner de détails. »
Anna Warren est morte le 6 juillet 2013. Elle était à 1 mois de son 3e anniversaire.
I started crying.
J'ai commencé à pleurer.
I had become so attached to this little girl and to her family.
Je m'étais vraiment attachée à cette petite fille, à sa famille, et je pensais à ses parents et à tout ce qu'ils ont traversé à chaque fois que je me suis assise avec eux et qu'ils me parlaient de ce qu'ils vivaient avec leur petite fille.
And they talked about what they'd been through with this little girl and
et tout l'espoir qu'ils avaient placé dans cet homme-là, qui devait être le docteur Miracle, qui était le seul espoir d'Anna qui aurait dû la sauver. Et tout s'est affreusement mal terminé.
Paolo lui a dit qu'il ne savait pas ce qui s'était passé. Mais maintenant, Anna était l'ange sur son épaule qu'il guiderait pour être meilleure la prochaine fois. Elle n'est pas morte en vain. Son opération a fait avancer la médecine régénérative et sa mort ne ferait que rendre Paolo plus déterminé.
Elle a radicalement changé ma façon de penser. Avant, j'étais agressif, maintenant encore plus, parce que ces patients-là le méritent.
À des milliers de kilomètres de là, à Stockholm, en Suède, dans un bureau de l'Institut Karolinska, 4 docteurs ont eu une conversation très différente au sujet du docteur Paolo Macchiarini et sur les besoins de ses patients.
À un moment, il a dit, « Je me demande si ce type a obtenu l'approbation éthique pour faire ces opérations-là. »
Ses collègues se sont regardés avec incrédulité.
« Bien sûr qu'il l'a. Enfin, personne ne ferait ça. »
« Bien sûr, personne ne ferait ça. » Sauf que personne ne connaissait la vérité sur le docteur Paolo Macchiarini. À suivre dans cette saison de Docteur la mort, l'homme miracle.
The ice was wide open and...
Ses yeux étaient grands ouverts et elle agitait les bras. Elle était effrayée à l'idée de mourir.
He's there. Il est ici, pas en Russie. Espèce de menteur. Trou de cul.
Si je devais choisir entre la trachée en plastique de Paolo Macchiarini et une balle dans la nuque, je me ferais tirer dessus sans la moindre hésitation.
Ceux qui disent que l'amour est aveugle ont bien raison.
Pour Wondery, vous avez écouté l'épisode 1 de 6 de Docteur la mort, l'homme miracle. L'histoire d'un médecin qui a promis une révolution de la médecine régénérative qui a tourné au cauchemar. Si vous voulez nous aider à faire connaître la série, donnez-nous une note de 5 étoiles et n'oubliez pas d'en parler à vos amis. Écoutez Docteur la mort sur Apple Podcasts ou sur toute autre plateforme de balado. Également disponible en primeur et sans publicité sur Amazon Music ou en vous abonnant à Wondery Plus sur Apple Podcasts ou sur l'application Wondery. Dans les commentaires de l'épisode, vous trouverez les liens et les offres de nos commanditaires. Merci de les encourager. Docteur la mort a été écrit, couvert et présenté par Laura Beal. Cette version est présentée par Anne-Sophie Roy. Produit par Nika Singh, qui a également couvert cette histoire. Vérification des faits par Jacqueline Colletti. Assistante de production Fiona Pestana. Directrice de production Lata Pandia. Supervision musicale Scott Velasquez. Design sonore Salt, producteur exécutif George Lavender, Marshall Louis et Jen Sargent pour Wondery. La version québécoise est réalisée et mixée par Anne-Sophie Carpentier, Philippe Séguin et Bastien Gagnon La France, avec la participation de Dominique Plamondon de Cube Radio.